Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Thibaut Guignard, maire de Pleuc-l'Hermitage, président de la Fédération européenne des territoires ruraux. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
On va parler d'Europe.
C'est une bonne idée.
Voilà, ça ne vous surprend pas.
C'est une très bonne idée.
On va parler d'Europe et de l'Europe des territoires. Elle est un petit peu l'oubliée, j'allais dire, dans le grand débat européen. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géopolitique, on parle beaucoup de changements aux portes de l'Europe. On parlera de la guerre aussi. Hein. Je sais que vous êtes très proche de l'amitié franco-polonaise, entre autres. On parlera de la guerre aux portes de l'Europe tout à l'heure. Mais je voulais vous entendre sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer les territoires sans l'Europe, et en particulier ici en Bretagne.
Il est important effectivement de rappeler que l'Union européenne, c'est les grands enjeux, comme vous l'avez dit, les enjeux de souveraineté, de défense, de frontières, de gestion des migrations. Mais l'Union européenne, c'est aussi l'Europe du quotidien, l'Europe des territoires. Comment est-ce que l'on fait vivre les projets dans les territoires? Et pour cela, déjà depuis 30 ans, l'Union européenne déploie des programmes de développement dans les territoires ruraux, dans les territoires littoraux, dans les territoires de montagne, de façon à aider les acteurs locaux à faire émerger des projets et à faire du développement local.
Alors le développement local, vous l'avez mis en pratique à Pleuc-l'Hermitage. Alors Pleuc-l'Hermitage, c'est dans les Côtes d'Armor. Je dis pour nos auditeurs qui sont au loin
cœur des Côtes d'Armor.
Et au cœur des Côtes d'Armor, on pourrait le dire comme ça. Comment une commune comme Pleuc-l'Hermitage a reçu l'aide européenne? Alors je ne parle pas forcément d'une aide financière, mais a reçu l'Europe.
Il y a plusieurs opportunités européennes qui s'offrent aux collectivités locales. Il y a effectivement les fonds européens, que ce soit les fonds de la politique de cohésion, que ce soit les fonds pour le développement rural. Mais il y a aussi les programmes de coopération pour avoir des échanges avec d'autres collectivités européennes, d'autres États membres, des collectivités avec lesquelles on peut être distant de plusieurs milliers de kilomètres, mais avoir les mêmes problématiques de maintien des services publics, de prise en charge de la jeunesse, de préservation de l'environnement, etc. Et donc il y a ces différentes opportunités auxquelles il faut rajouter bien évidemment les échanges de jeunes. Comment accueillir des jeunes en service européen dans nos communes et permettre à nos jeunes d'avoir des mobilités dans d'autres pays européens.
Alors les jeunes, c'est aussi l'Europe, et l'Europe c'est Erasmus. Il y a des échanges par exemple avec même des territoires ruraux.
Erasmus est totalement ouvert aux territoires ruraux, évidemment, aux jeunes ruraux, mais aussi aux différents acteurs, car aujourd'hui, dans le programme Erasmus+, l'Union européenne a mis tous les programmes de mobilité, et on retrouve des programmes de mobilité qui peuvent servir pour les associations, pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, pour des socioprofessionnels, pour des sapeurs-pompiers volontaires. Nous l'avons fait à Pleuc-l'Hermitage avec la caserne. Donc aujourd'hui, Erasmus+, c'est bien au-delà de la mobilité des jeunes, même si la mobilité des jeunes étudiants, ça reste le cœur des motivations de l'Union européenne pour construire une génération d'étudiants pro-européens, bilingues, etc.
Alors, les jeunes sont plutôt, j'allais dire, européens compatibles, on pourrait peut-être le dire comme ça, je ne sais pas. En tout cas, l'Europe ne leur pose pas de problème. Par contre, on a l'impression que leurs aînés prennent quelques distances avec l'Europe aujourd'hui. On ne la comprend pas bien, l'Europe. On la trouve embêtante, pour ne pas dire d'autres mots. Est-ce qu'il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour faire comprendre l'Europe?
Il y a deux fractures aujourd'hui, je pense, au niveau du sentiment européen. Il y a entre la jeunesse et nos aînés qui parfois, comme vous le disiez, sont un peu moins pro-européens, bien que ceux qui ont connu la guerre, qui ont connu l'après-guerre, qui ont connu la reconstruction, qui ont connu la paix depuis 80 ans, savent ce que nous devons à l'Union européenne. Et puis il y a une deuxième fracture, c'est entre les territoires ruraux et les territoires urbains. On voit bien qu'il y a des villes, des métropoles qui sont ouvertes sur l'Union européenne, qui sont ouvertes sur la mondialisation, et des territoires ruraux qui se sentent, à tort ou à raison en partie, délaissés par les gouvernements nationaux et par l'Union européenne, et qui, eux, se replient sur une forme de souverainisme et un vote parfois extrême. Et on le voit dans les intentions de vote pour les élections européennes qui arrivent. Donc on a un vrai travail à faire pour expliquer aux habitants du monde rural que l'Union européenne est là, et que sans l'Union européenne et sans la politique agricole commune, il n'y aurait plus de zones rurales vivantes aujourd'hui en France et dans les autres États membres.
Alors on va parler de l'agriculture, c'est très important, il y a un monde agricole en mouvement, allais-je dire. Je voulais juste vous entendre sur les intentions de vote du Rassemblement National, par exemple ici en France, intentions de vote qui sont importantes, hein. On donne le RN à presque 32% aujourd'hui. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter? J'ai posé la question à quelques invités ces derniers temps au micro de la matinale.
Ça m'inquiète fortement, puisque cette poussée de l'extrême droite, on la voit en France mais dans d'autres pays, À quoi va ressembler le Parlement européen dans quelques semaines? Quelle va être la politique de l'Union européenne avec ses nouveaux équilibres au sein des différents groupes, et notamment politique européenne et positionnement vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Fédération de Russie? Ça m'inquiète aussi au niveau national, parce que le Front National veut faire de ces élections européennes un marchepied pour les élections présidentielles. Mélangeant tout, il demanderait même une dissolution de l'Assemblée nationale, alors qu'on parle bien d'élections européennes. Ceci dit, M. Bardella étant très peu allé au Parlement européen ces dernières années, il mélange un peu tout entre les élections nationales et les élections européennes. On voit bien qu'il y a un vieux souverainisme avec une volonté de se positionner pour 2022, ce qu'il faut pour 2027, pardon, 2022 c'était la dernière fois, pour 2027. Donc il faut repositionner l'Union européenne au cœur de cette campagne. Et le vrai sujet aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de savoir lequel des deux blocs va arriver en tête, au-delà des partis politiques, des différentes listes. Est-ce que ça va être le bloc pro-européen, j'allais dire raisonnable, qui va aujourd'hui du parti socialiste jusqu'à la liste de Renaissance, ou est-ce que ça va être les partis et les listes qui remettent en cause l'Union européenne et qui remettent même en cause l'intérêt de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on a deux blocs, les pro-européens et ceux qui voudraient détricoter l'Union européenne. Lequel de ces deux blocs va arriver en tête aux élections?
Voilà, on le saura évidemment le 9 juin. Aujourd'hui, on a une Europe qui est en mutation, mutation géopolitique. On le voit avec la guerre en Ukraine, avec aussi une Europe qui a un œil sur ce qui se passe au Proche-Orient, évidemment, avec la guerre entre Israël et le Hamas. On a aussi... On allait presque dire l'hégémonie de la Chine qui s'installe un petit peu partout dans le monde, qui fait sa place en Afrique par exemple, et on a l'inquiétude également qui plane aux États-Unis avec le retour possible, alors voilà, on mettra des guillemets, il y a un procès en cours, le retour possible de Donald Trump, en tout cas lui aussi là-bas est crédité de fortes intentions de vote, même si le système électoral est très compliqué aux États-Unis. Est-ce que là aussi l'Europe va devoir se renforcer, va devoir peser sur la scène internationale?
Ça revient à l'analyse que je faisais à l'instant, savoir lequel des deux blocs va gagner ces élections européennes, parce que effectivement l'Union européenne a besoin de se renforcer. On parle désormais d'Europe de la défense, ce qui n'était pas du tout un sujet d'actualité il y a quelques années. On parle de souveraineté, ce qui n'était pas non plus notre sujet il y a quelques années. Il faut savoir que depuis 80 ans, l'Europe de l'Ouest vit dans la paix et la prospérité. Pour l'Europe de l'Est, ça fait que 30 ans, hein, c'est là depuis la chute du mur. Mais on avait pensé depuis 30 ans que la paix était acquise et la stabilité était acquise. Et on voit bien aujourd'hui que un monde s'est effondré en février 2022. Un monde s'est effondré avec l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine. N'oublions pas non plus ce qui se passe en Géorgie avec l'annexion de certaines régions, ce qui se passe en Moldavie avec la déstabilisation du régime moldave et la Transnistrie. Donc on voit bien que la Fédération de Russie est sur plusieurs fronts à la fois. On a effectivement le Proche-Orient qui s'embrase, un éventuel retour de Donald Trump aux États-Unis qui a déjà annoncé que l'OTAN ne serait plus le protecteur des pays de l'Union européenne.
Donc on a payé, hein. En gros, c'est ce qu'il a dit, vous payez, oui. On vous protège, vous payez pas, vous protège pas.
Il faut payer, mais ça c'est normal que chacun paye sa part. La question c'est, est-ce qu'on mutualise et est-ce qu'on est sur la même ligne géopolitique? Après, les financements, effectivement, chacun doit payer sa part, mais la question c'est la question de la ligne géopolitique, quelle position on a face à l'agresseur Poutine. Donc on a un monde qui s'est écroulé en février 2022 et maintenant on doit reconstruire avec l'émergence de nouvelles puissances. Et puisqu'on a fait un peu un tour du monde des difficultés, n'oublions pas tout ce qui se passe en Afrique avec là aussi la présence de la Russie, de la Chine et des guerres en Afrique qui durent depuis des décennies.
En tout cas, la France qui en a été chassée, en tout cas pour quelques pays africains, la France considérée comme le colonisateur. On voit que les choses se bousculent sur la scène internationale. On voit que l'Europe commence à avoir une conscience politique. L'avait-elle d'ailleurs avant ?
Je pense qu'il y avait des dirigeants européens qui avaient une conscience politique pour l'Union européenne, mais qui désormais elle est collective. On voit qu'il y a quand même encore des subtilités entre certains positionnements, mais en tout cas il y a une prise de conscience que l'Union européenne doit jouer un jeu sur la scène internationale et parler d'une seule voix, et qu'elle doit aussi se défendre elle-même. Parce que si on n'arrête pas la Fédération de Russie en Ukraine, elle sera demain en Moldavie, en Pologne, dans les pays baltes. Et donc, ce n'est pas uniquement la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, c'est la guerre de la Fédération de Russie contre le projet européen, ce projet de démocratie, de liberté, d'égalité femmes-hommes, contre lesquels s'opposent Vladimir Poutine et son régime.
Une forme de retour finalement à un bloc Est-Ouest, je schématise un petit peu, mais on est un petit peu dans cette idée-là, en tout cas dans l'idée de Vladimir Poutine.
Il y a la volonté de recréer l'ex-URSS, considérant que la Fédération de Russie ne s'arrête pas dans ses frontières actuelles. Et puis, il y a, je le disais à l'instant, cette volonté de déstabiliser le projet européen. Alors, est-ce que c'est une vague de fond de la société russe? Moi, j'ai plutôt confiance dans la nature humaine. Je pense que les êtres humains, les citoyens du monde sont plutôt des pro-démocratie et liberté. Encore faut-il qu'ils aient eu l'occasion d'y goûter. Et donc, c'est pour ça que je ne résumerai pas l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie à la question du peuple russe. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment le problème de Vladimir Poutine et de son régime.
Vous parliez à l'instant d'Europe de la défense. On voit que ça chemine, évidemment. C'était quelque chose qui était très utopiste il y a encore 5-6 ans. Cette Europe de la défense, au moment même où la Pologne va autoriser sur son territoire l'OTAN à pouvoir installer l'arme nucléaire, est-ce qu'on bascule dans quelque chose de dangereux?
Oui, on bascule dans quelque chose de dangereux, mais l'Union européenne et ses pays membres et l'OTAN ont aussi le droit de se défendre. Et avant de parler de guerre nucléaire, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire.
On en parle bien, dissuasion.
L'arme nucléaire est d'abord utilisée en capacité de dissuasion. Aujourd'hui, Poutine sait que s'il devait déclencher une bombe nucléaire, il s'en prendrait 3 ou 4 fois plus sur la tête et que, sans doute, même s'il faisait beaucoup de dégâts au niveau européen, il y aurait aussi beaucoup de dégâts au niveau de la Fédération de Russie. Donc, sauf à ce qu'il soit qu'il ait perdu la raison par rapport aux intérêts également de son peuple, eh bien, je pense que la dissuasion nucléaire doit être renforcée, et c'est la question de la Pologne, évidemment.
La diplomatie aussi, on a souvent reproché à l'Europe d'être un peu timorée en termes de démocratie, ou aux États divers, là la France a été un peu fer de lance en termes de démocratie au sein de l'Europe. Est-ce que là aussi il va falloir renforcer le côté diplomatique de l'Europe, avec peut-être une Europe des nations diplomatiques, on pourrait peut-être le dire comme ça?
On peut peut-être le dire comme ça, mais il faut aussi rappeler que l'Union européenne, c'est une construction volontaire d'une union à 27 États membres qui ne sont pas tous rentrés en même temps, qui n'ont pas tous le même niveau de développement économique, social et même de même niveau de déploiement démocratique. Hein. On a encore des progrès à faire dans certains pays. Certains pays viennent de traverser des périodes un peu compliquées. C'est le cas de la Pologne qui retrouve désormais sa place dans le concert de l'Union européenne. Donc on ne peut pas non plus imposer une voix pour 27. On n'est pas les États-Unis d'Amérique. On est l'Union européenne avec son système de compromis. Mmh. Alors, les mêmes qui aujourd'hui disent l'Europe est incapable de parler d'une seule voix défendent aussi le fait que les nations gardent une certaine liberté dans leur expression et notamment diplomatique. Donc, il faut avancer à 27. C'est pas simple, mais c'est toujours mieux que d'avancer tout seul.
On va parler, je vous l'ai promis tout à l'heure, d'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, ça nous ramène quelque part à la guerre en Ukraine. On entend les agriculteurs européens, ils ont manifesté jusqu'en Grèce. Hein. Les tracteurs sont sortis en Grèce également. On les a vus peut-être un petit peu plus à nos portes ici en Bretagne aussi, ces tracteurs dans nos campagnes et dans nos villes. Il y a un malaise paysan, il y a une crise paysanne. On pointe beaucoup du doigt l'Europe dans cette crise paysanne. Quelque chose de compliqué, qui n'est pas à l'écoute des paysans, des agriculteurs. Et puis des craintes, les craintes sur les traités, les craintes aussi sur l'entrée possible de l'Ukraine dans l'Union européenne avec peut-être des règles qui pourraient changer. Est-ce que vous les entendez, ces craintes là aujourd'hui ?
Bien sûr, chacun les entend, ces craintes, mais il faut aussi faire preuve de pédagogie. D'abord, il faut rappeler que sans la politique agricole commune, le modèle de ferme à la française et j'allais dire le modèle européen de ferme à taille humaine, familiale, etc., n'existerait plus. On serait dans un système de ferme industrielle comme aux États-Unis. Donc la politique agricole commune a permis de garder ce modèle qui est aussi le gage d'une qualité alimentaire, d'une traçabilité, d'une protection de l'environnement, parce que les agriculteurs sont attachés à leur territoire. Ce ne sont pas des investisseurs qui ont 5000 hectares, ce sont des agriculteurs qui sont attachés à leur territoire, qui y vivent avec leur famille. La deuxième chose, on dit que la politique agricole commune, elle est contraignante, elle est compliquée, sauf qu'elle a été votée par les parlementaires européens. Elle a été modifiée hier, d'ailleurs, et lors de la session de Strasbourg cette semaine, il y aura des avancées pour la simplifier, et notamment pour l'assouplir sur les contraintes environnementales. Mais pour autant, lorsqu'elle a été votée, elle a été votée à l'unanimité des parlementaires européens, qui considéraient à ce moment-là qu'il fallait verdir la politique agricole commune plutôt que de maintenir la capacité de production. Aujourd'hui, avec la guerre de retour en Europe, pas dans l'Union européenne, mais sur le continent européen, eh bien, on considère qu'il faut maintenir cette capacité de production, et on revient, j'allais dire, à des choses beaucoup plus terre à terre pour nourrir les Européens et les Européennes. Et puis la complexité, et la France l'a reconnu, c'est d'ailleurs le travail qu'a fait Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, depuis plusieurs mois, la France surtranspose. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, si on maintenait uniquement le niveau d'exigence de l'Union européenne, on allégerait déjà grandement les difficultés que rencontrent nos agriculteurs.
Et donc c'est un petit peu le côté administratif à la administratif, française.
Administratif, surtransposition, laver plus blanc que blanc, être plus exigeant que les normes européennes. Moi, je suis pour qu'on applique les normes européennes, toutes les normes européennes, mais rien que les normes européennes, qu'on ne vienne pas en rajouter par rapport à la concurrence. Et puis le dernier point, par rapport à l'Ukraine, il faut quand même arrêter une certaine forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'importation de poulet ukrainien dans l'Union européenne, on n'aurait pas de plats cuisinés dans nos rayons de supermarché. On importe, alors selon les études, environ 50% de notre poulet. Donc il y a deux choses. D'abord, il faut réindustrialiser d'un point de vue agroalimentaire les pays de l'Union européenne et augmenter notre production de poulet, notamment en France où on en produit à peu près la moitié de ce qu'on consomme. Donc il faut remettre en place des élevages de poulet qu'on a fermés depuis des décennies sous prétexte d'environnement, etc.
C'était le cas en Bretagne.
D'ailleurs. Ça a été le cas en Bretagne. Mmh. Regardez dans nos campagnes, les campagnes sont pleines de poulaillers qui sont désaffectés et qui s'effondrent sur eux-mêmes. Et ces poulaillers, il y a 30 ans, ils étaient remplis de poulet, de dinde, de pintade, etc. Donc il faut remettre une production de volailles en France. Et puis il faut aussi se dire que tout le poulet qu'on n'importera pas d'Ukraine, on importera du Brésil. Et qu'est-ce qu'on préfère? Qu'un poulet traverse l'Atlantique ou qu'il vienne de l'Ukraine, qui applique déjà depuis plusieurs années les standards de l'Union européenne pour avoir accès au marché de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut aussi rappeler les choses. Aujourd'hui, on nous dit le poulet ukrainien n'est pas produit dans les mêmes conditions d'exigence que l'Union européenne. C'est faux. L'Ukraine s'est déjà alignée pour avoir accès à notre marché. Donc il faut faire preuve de pédagogie, mais sans forcément masquer les difficultés. Il faut une politique agricole commune qui soit plus ambitieuse et plus adaptée à l'agriculture européenne. Il faut arrêter au niveau national les surtranspositions et permettre le retour de certaines productions qu'on avait un peu déléguées à des pays tiers. Et puis, il faut discuter avec l'Ukraine, qui est un pays qui a une vocation à rentrer dans l'Union européenne, qui partage notre mode de vie, j'allais dire notre vocabulaire, et qui comprend à peu près les mêmes valeurs, pour éviter de faire venir du poulet du Brésil.
Alors, à vous entendre, Thibault Guignard, on parle aussi d'une forme de souveraineté européenne. Est-ce que l'Europe est en train de, là aussi, j'allais dire, affirmer sa souveraineté? On parle beaucoup de souveraineté en termes, on le disait tout à l'heure, de géopolitique, en termes de politique agricole. Il reste encore aussi l'énergie, qui est un peu l'affaire de chaque pays. Alors en France, il y a un grand débat, énergie durable ou nucléaire. Là aussi, il y aura des grands enjeux au niveau de l'Europe sur l'énergie.
Mais l'Union européenne a compris depuis la Covid qu'elle devait être souveraine. Et qu'aujourd'hui, la souveraineté à l'échelle des États, ça n'a aucun sens. Fermer les frontières au niveau français et dire on va taxer ce qui arrive d'Espagne ou de Roumanie, c'est un retour 50 ans en arrière. Et
Ça veut le charme de la frontière quand on partait en vacances.
Oui, il y a toujours les guitounes. Hein. On peut, quand on passe, on peut montrer aux enfants ce que c'était qu'une frontière avant et leur rappeler qu'on attendait j'attendais 2 heures pour aller passer 15 jours en vacances en Espagne. Mais depuis la Covid, l'Union européenne a compris qu'il fallait qu'elle soit souveraine sur la production de médicaments, souveraine sur l'alimentation, et puis il y a eu effectivement la guerre en Russie, souveraine sur l'énergie, souveraine sur la défense, sur la production d'armes. Aujourd'hui, les armes qui vont être achetées pour aider l'Ukraine par l'Union européenne vont être achetées en dehors de l'Union européenne parce que nous n'avons pas la capacité de production. Parce que depuis 30 ans, on dit que les armes, c'est pas bien ce que c'est pour faire la guerre. Enfin, c'est d'abord fait pour se défendre. Et on a laissé d'autres pays prendre le dessus technologiquement et dans la capacité de production, sur la production d'armes. Et aujourd'hui, on est donc dépendant de pays tiers. Donc, il est urgent que l'Union européenne produise ses propres armes qui, une fois de plus, n'ont pas vocation à faire la guerre, mais à se défendre.
Le président de la République a enclenché en quelque sorte ce retour de la production d'armes en France ces derniers temps.
Oui, mais là aussi, c'est un virage très important qui a été pris par la France. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, si un président de la République, quel qu'il soit, avait proposé ça, on lui aurait sans doute dit qu'il était un va-t-en-guerre, un pessimiste. Voilà. Aujourd'hui, c'est une impérieuse nécessité que d'avoir une capacité à se défendre pour la France, pour l'Union européenne. Et on sait que dans l'Europe de la défense qui se dessine, certains pays ont une place particulière, la France, l'Allemagne notamment.
Alors, autre grand sujet qui concerne l'Europe, c'est l'immigration, sujet qui, évidemment, est très complexe et souvent très dur à traiter, même pour nous, les médias, parce que souvent, on est pour, on est contre. Aujourd'hui, on a un flux migratoire important vers l'Europe, vers la France également. On entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ce serait? Alors, je ne vais pas vous demander, Thibault Guignard, ce matin, la feuille de route, mais qu'est-ce que ce serait idéalement l'immigration aujourd'hui en Europe? Comment accueillir les migrants? Comment coopérer aussi avec les pays qui envoient finalement ces migrants sur le territoire européen?
Je pense qu'effectivement, l'Union européenne doit marcher sur 2 jambes, comme les États membres d'ailleurs, c'est-à-dire d'un côté l'accueil des migrants qui peuvent être accueillis et les contrôles aux frontières pour ne pas avoir ce que certains appellent des vagues de submersion. Bon, voilà. Mais il y a aussi la question du développement Nord-Sud et de la capacité à aider ces pays à se développer, à garder leur population, et en échange qu'ils nous aident aussi d'ailleurs dans le contrôle des flux. Mais pour autant, cette immigration, elle doit aussi être ce qu'on appelle parfois une immigration choisie. C'est-à-dire que l'Union européenne est un continent vieillissant, où on a besoin aussi de l'immigration pour la main-d'œuvre. Il n'y aurait pas de Coco de Paimpol s'il n'y avait pas de travailleurs extérieurs, il n'y aurait pas de Clémentine de Corse s'il n'y avait pas de travailleurs extérieurs, etc., etc. Donc on a besoin de cette main-d'œuvre. On a toujours été l'Union européenne des pays où il y a eu des flux migratoires et où on a su intégrer intelligemment des personnes de nationalités différentes. Mais effectivement, il faut retrouver le contrôle de cette immigration. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie, qui pour moi n'est pas un gros mot. On doit pouvoir choisir quel profil de personnes viennent travailler dans l'Union européenne. Je mets de côté les gens qui sont poursuivis dans leur pays ou qui sont accueillis pour des questions d'asile ou de protection. Je parle des gens qui viennent pour travailler, pour choisir un avenir meilleur, ce qui nous permet d'ailleurs de nous rappeler que la vie n'est pas si mauvaise que ça dans l'Union européenne en termes de développement économique et social, puisque d'autres nous envient et ont envie de nous rejoindre.
Il y a une crainte de changement, on l'entend sur certaines chaînes de télévision, de changement civilisationnel, c'est-à-dire une civilisation qui en remplace une autre. Pour vous, c'est quelque chose d'utopique, cette façon de penser?
C'est une façon de penser qui relève des différentes extrêmes droites, parce qu'elles sont plusieurs désormais en France, avec cette peur de l'autre, cette xénophobie qui fait leur fond de commerce. Quand ça va moins bien, lorsqu'on a des craintes sur le chômage, sur le développement économique, sur notre sécurité, on met ça sur le dos de l'autre, c'est-à-dire celui qu'on ne connaît pas, alors qu'une fois de plus, nos nations européennes sont faites de migration, depuis toujours. Donc il faut être capable d'être ferme sur l'immigration, mais de rester humaniste dans notre accueil et de pas partir sur des grandes déclarations anxiogènes qui sont là uniquement pour faire de l'électoralisme.
Alors, il y a quand même aussi dans nos territoires les raisons de s'inquiéter un petit peu. On voit dans les grandes villes la progression du trafic de drogue. Alors, là aussi, c'est un dossier européen, comment lutter contre le trafic de drogue au sein de l'Union européenne. Et ça arrive dans nos campagnes. Est-ce que c'est, là aussi, c'est un sujet d'inquiétude pour l'élu que vous êtes, Thibault Guignard?
Oui, c'est un sujet d'inquiétude parce qu'on a aujourd'hui des jeunes notamment qui ont accès à des produits qu'on ne trouvait pas dans nos campagnes il y a encore 20 ans. Et donc, c'est un vrai sujet de santé publique, c'est un vrai sujet de criminalité organisée. Derrière toutes ces filières, il y a du blanchiment d'argent, il y a la traite d'êtres humains, etc. C'est un sujet qui inquiète, je pense, les responsables politiques, l'État, les forces de l'ordre. Mais là aussi, il faudrait se poser la question de savoir comment nous serions si nous n'avions pas l'Union européenne et la capacité de répondre à 27. C'est pas parce que demain, on construirait un mur avec des barbelés à la Donald Trump tout autour de la France que la France redeviendrait ce pays dont on a quelques souvenirs un peu mélancoliques des années 70.
Voilà, un pays de souvenirs des années 70, mais finalement la France, j'allais presque dire, tire un peu son épingle du jeu au niveau mondial, hein, quand même, il faut bien le dire. Alors, un dernier mot, c'est un sujet d'inquiétude, c'est l'économie. Et en France, on a vu, il y avait un dérapage quand même de la dette publique. Est-ce que là aussi, dans les années qui viennent, l'Europe, ou en tout cas l'Union européenne, aura une faculté de mieux réguler les économies? J'allais presque dire régional, pardonnez-moi, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas des pays membres.
Le Parlement européen a voté cette semaine un retour aux critères de l'Union européenne et notamment les 3% de déficit et les 60% de dette dans le PIB. Moi, je pense que cette certaine forme de rigueur budgétaire est nécessaire parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Néanmoins, il y a des moments dans des périodes de crise où il faut être capable d'apporter de l'argent frais sur la table et l'Union européenne a su le faire. Là aussi, c'est une révolution suite à la Covid, avec le plan de relance et la capacité à mobiliser un emprunt commun. Et donc, dans les crises, il y a toujours des choses positives. Et entre celle de la Covid et celle de la guerre en Ukraine, l'Europe a fait énormément de progrès en 5 ans. Il y a 5 ans, on n'aurait pas parlé d'emprunt commun, on n'aurait pas parlé d'Europe de la défense, on n'aurait pas parlé d'acheter des armes, on n'aurait pas parlé de souveraineté pour les médicaments, pour l'alimentation, pour l'énergie, etc. Donc, je pense que dans ces crises, l'Union européenne a tristement, j'allais dire, mais a fait des grands progrès.
Un dernier mot, Thibault Guignard, il doit nous rester une petite minute, ça va être très rapide, mais je voulais vous entendre aussi sur l'autonomie des régions. Alors c'est une idée qui a été lancée ici en France, on pense à la Corse, on pense aussi à la Bretagne, on en a beaucoup parlé ici avec l'expression du président de la région, Loïc Chesnais-Girard, qui dit chiche, pourquoi pas une meilleure autonomie, une plus grande décentralisation pour des régions telles que la Bretagne. Est-ce que on va vers une Europe fédérale aujourd'hui ou est-ce qu'on restera dans l'Europe des nations?
Je pense qu'on restera encore pour quelque temps dans l'Europe des nations parce que les habitants y sont attachés et il ne faut rien faire qui se fasse contre la volonté de nos citoyens. Pour autant, il faut aller vers de plus en plus de compétences en commun, de plus en plus d'intégration, sans perdre notre souveraineté nationale, mais pour permettre justement à l'Union européenne de se renforcer. Alors il y aura sans doute d'ailleurs à l'occasion des élargissements à venir qui sont annoncés vers les Balkans occidentaux, l'Ukraine, etc., des modes de fonctionnement à revoir, la règle de l'unanimité, le collège des commissaires, etc. Il y aura sans doute beaucoup de réformes à mener en vue de ces élargissements, mais pour autant, nous restons une union d'États qui s'est construite de manière volontaire, et c'est la seule union d'États au monde qui ne s'est pas construit par la guerre. Les États-Unis d'Amérique, ça a été sanglant. La Fédération de Russie, c'est toujours sanglant. Et l'Union européenne, c'est la seule union d'États qui s'est construite pour la paix, mais aussi par la paix. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu plus complexe. Ça avance un peu plus doucement. Mais les démocraties, c'est toujours beaucoup plus long que les dictatures. Mais, me semble-t-il, un grand homme avait dit que la démocratie était quand même le moins mauvais système.
Oui, effectivement, voilà. L'Europe de la cohésion, en tout cas. On en parlait ce matin avec vous. Thibault Guignard, je rappelle que vous êtes président de la Fédération européenne des territoires ruraux et vous êtes également maire de Pleuc-l'Hermitage. C'est important, les maires. On en parle souvent aussi sur cette antenne. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci et très belle journée.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.